Bonsoir. Amnesty International, l'ONG des défenses de droits de l'homme, a publié ce 20 août un rapport accablant dénonçant des exactions commises par les rebelles du M23, les forces armées de la RDC et leurs alliés, les combattants Wazalendo, dans l'est de la RDC. Intitulé RDC, nous ont dit qu'on allait mourir. Les exactions du M23 et des Wazalendo dans l'est de la République de la RDC, plutôt. Ce rapport documente des violations graves du droit international humanitaire, notamment des exécutions sommaires des civils, des viols collectifs, des attaques contre des hôpitaux, des enlèvements des patients, ainsi que la torture et la disparition forcée des membres de la société civile. Quelle analyse faire du rapport d'Amnesty International? Nous en parlons ce soir avec Christian Roumou, qui est chargé des campagnes chez Amnesty International. Christian Roumou, bonsoir.
Bonsoir.
Avec moi dans ce studio, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Kouté, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir également à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
À Bukavu, au Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur YesTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net.
Le nouveau rapport d'Amnesty International accuse la rébellion du M23, les combattants Wazalendo et les soldats des FRDC de plusieurs violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le document que vient de publier l'ONG internationale s'intitule « RDC, ils nous ont dit qu'on allait mourir, les exactions du M23 et des Wazalendo dans l'est de la RDC ». Ce rapport, comme je l'ai dit, montre en effet que des combattants du M23 se sont livrés à des exécutions sommaires des civils congolais, des viols collectifs des femmes et autres violations graves du droit international humanitaire qui pourraient s'apparenter aux crimes des guerres. Les condensés de ce document avec vous, Jeff Ngoy.
Des hôpitaux attaqués, des patients enlevés, des membres de la société civile torturés et disparus de force. Le rapport décrit dans le détail la militarisation croissante dans l'est de la RDC, le M23 ayant pris le contrôle de vastes zones de la région et les Wazalendo ayant reçu de grandes quantités de munitions et d'armes fournies par les FRDC. Si tu ne veux pas, on te tue. Rapporte Amnesty précisant que sur 14 survivantes de violences sexuelles du Nord Kivu et du Sud Kivu avec lesquelles elle s'est entretenue, 8 ont affirmé avoir été violées en réunion par des combattants du M23, 5 par des Wazalendo et 1 par des soldats des FRDC entre les mois de mars et de mai 2025. 5 victimes auraient déclaré à l'Amnesty avoir subi des viols sur des sites militaires du M23. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, l'ONG appelle le Qatar à faire pression sur le M23 afin que cessent ces violences. Elle demande aux États-Unis d'exhorter l'État congolais à identifier les auteurs de ces crimes dans les rangs de tout combattant des groupes armés et des forces de sécurité.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Christian Roumou, vous êtes chargé des campagnes chez Amnesty International. C'est pas le premier rapport que vous publiez sur des exactions commises dans la partie est de la RDC depuis que une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu sont occupées par la rébellion du M23. Alors, par rapport à ce nouveau rapport, quel est le point essentiel? Et comment vous le qualifiez par rapport à vos précédentes publications sur la RDC?
Merci beaucoup pour la parole. Comment le qualifier par rapport à nos publications précédentes? C'est vraiment une déception. C'est, c'est de partir d'une déception à une autre, parce que ce sont les mêmes types de violations qu'on est en train de documenter, qu'on est en train de dénoncer, et c'est le même comportement qu'on reçoit de la part du M23, des autorités rwandaises, des autorités congolaises, une absence totale de reconnaissance des souffrances des populations congolaises, de ces femmes, de ces jeunes qui subissent chaque jour, jour après jour, ces violences. Donc c'est vraiment un sentiment de désespoir.
Vous avez l'impression que vos rapports n'ont pas d'effet, n'ont pas d'impact sur les terrains?
Surtout que les dirigeants ne veulent pas comprendre. Ils ne savent pas reconnaître la souffrance des populations. Et c'est important pour nous de sortir ce rapport en ce moment, parce que ce qui se passe à Washington et à Doha semble déconnecté des réalités des populations et des souffrances des communautés dans les deux provinces. Donc pour nous, c'est important que nous puissions publier ce rapport pour qu'on recentre les discussions sur la justice et la redevabilité.
Alors, vous publiez ces rapports maintenant, alors que l'on sait que le gouvernement, vous savez, j'imagine, que le gouvernement congolais est en pourparlers avec le M23 à Doha au Qatar pour essayer de trouver des compromis ou des solutions à cette crise dans la partie est de la RDC. Quel est le bien fondé de ce rapport dans le contexte actuel, sachant qu'il y a ce dialogue?
Oui, c'est le bien fondé, c'est exactement ramener le dialogue autour de la justice et la redevabilité. Donc, il ne faudrait pas qu'on signe des accords sans pour autant parler de la justice et la redevabilité, parce que si on ne le fait pas, on va encore 10 ans après retourner sur les mêmes types de violations, parce que les auteurs de ces violations n'auront pas payé de leurs actes. Donc c'est très important qu'en ce moment où on parle des accords, qu'on parle aussi des souffrances des populations, qu'on parle comment les gens qui sont responsables de ces violations, qui peuvent être considérés comme des crimes de guerre, puissent rendre des comptes.
Alors, il y a des témoignages dans le rapport que vous avez publié. Comment avez-vous procédé pour vérifier la véracité de tous ces témoignages que vous avez reçus?
Alors, chez Amnesty, nous avons une méthodologie qui est très, très rigoureuse. Et donc, pour ce rapport, nous n'avons pas fait des interviews physiques. Donc, nous n'avons pas eu, par exemple, une équipe qui est partie au Nord Kivu ou au Sud Kivu. Mais nous avons parlé aux victimes, nous avons parlé aux survivantes, nous avons parlé aux témoins de ces incidents. Mais nous avons aussi utilisé, vérifié des vidéos, les photos disponibles sur certains qui montraient certains de ces incidents.
Alors, mais est-ce que vous avez essayé de rencontrer le M23 ou les FRDC ou encore les Wazalendo pour avoir leurs avis par rapport à tous ces témoignages que vous avez recueillis? Parce que le M23 rejette tout ce qui est écrit dans le rapport.
Oui, mais il ne faut pas qu'ils rejettent tout le temps sans pour autant engager avec les fonds des violations et des dénonciations qu'on fait. Et on les a engagés à travers des communications officielles. Déjà les 18 au mois de juillet, on a donné assez de temps pour eux pour qu'ils répondent aux conclusions de notre rapport. Mais ils ne l'ont pas fait jusque-là. Donc, c'est un peu malsain de dire maintenant publiquement qu'ils rejettent tout sans pour autant engager avec le fond de nos conclusions avant qu'on publie ce rapport.
On vous garde encore dans cette émission, Christian Humo. Je rappelle que vous êtes chargé des campagnes chez Amnesty International Placide Nzilamba. Vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Encore un nouveau rapport d'Amnesty International sur les exactions commises sur les populations civiles de la partie est de la RDC sont incriminés, les Wazalendo, les M23 les forces armées de la RDC, FRDC, je veux dire.
Effectivement, madame, c'est encore comme monsieur Roum l'a dit, c'est encore une poursuite de désolation, de comprendre que ce qu'on a décrié pendant plus de 30 ans continue toujours à se perpétrer aujourd'hui. Donc, c'est un rapport des droits de l'homme, on ne le prend pas comme une lettre d'accusation, mais comme un appel à prendre des responsabilités. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord, ou je me désolidarise de ces comportements, que ce soit des autorités, même des mouvements cités, à avoir tendance à se disculper ou de ne pas en tenir compte. C'est déjà un mauvais départ et qui fait à ce qu'il n'y ait pas de changement. Parce que je me demande à quoi gagne un commandant qui garde dans ses troupes des combattants criminels, réputés déjà criminels. Non, je crois que ça ne fait pas succès. Et que donc, pour nous, c'est de dire, c'est une interpellation envers ceux-là qui ont d'abord la charge de ces combattants-là ou des militaires dans leur rang, qui commettent des exactions, à bien vouloir se désolidariser de ce genre de combattants. De deux, c'est de dire aussi un appel à ceux-là, parce que c'est toutes ces violations qui ont été citées se commettent dans un contexte de conflit et de guerre. Et que donc, ceux-là qui se sont illustrés comme médiateurs pour trouver solution à cette situation de guerre, ils ont maintenant le portrait de la situation sur laquelle ils sont en train de travailler et voir qu'il y a l'urgence de finaliser avec tous les processus, tous les pourparlers, afin d'aller dans la mise en œuvre de ce qui a été établi comme compromis, notamment les accords. Et que donc, pour nous, c'est dire aussi aux gouvernants que aussi c'est une interpellation pour leur dire ces crimes-là se commettent du fait des actions et des inactions de l'État. Et que donc, les gouvernants aujourd'hui du Congo ont cette responsabilité de vite restaurer la paix et la sécurité dans ces zones-là, et passer directement à l'implémentation des juridictions qui doivent juger tous ces gens-là qui ont commis des crimes. Pourquoi ces crimes se perpètent chaque fois? Et ce sont des mêmes noms qui reviennent chaque fois. C'est parce tout simplement l'impunité a élu domicile, et on a rendu l'Est de la RDC comme un trou noir où le monde n'est pas assez intéressé à voir. Et maintenant, quelques couches d'individus ont transformé cette zone comme leur zone où ils peuvent tout faire. Donc, il est temps que la partie est de la RDC soit aussi un milieu vivable. J'ai lu des témoignages des femmes et d'autres personnes qui ont accepté de témoigner. C'est frappant, madame. C'est une souffrance dans la
description. En tant que société civile, vous avez reçu aussi ces échos, ces gens de violations du droit humanitaire, du droit de l'homme dans cette partie qui est occupée aujourd'hui?
Effectivement, et nous avons fait écho aussi à travers plusieurs publications qui ont paru par-ci, par-là et qui se trouvent même sur les tables des décideurs. Donc, ce travail, ce n'est pas une accusation, comme je l'ai dit, mais c'est une interpellation pour dire ce que Amnesty est en train de relayer, c'est ce que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est en train de relayer, c'est ce que les organisations militantes pour les droits de l'homme de la zone et même de la RDC sont en train toujours de relayer.
Mais il n'y a pas de changement.
Mais il n'y a pas de changement parce que, effectivement, le mal a élu domicile, même dans les organes où on devait prendre des décisions pour changer la donne. C'est le plus grand problème. Et c'est pourquoi j'ai aimé quand M. Roumou l'a dit, c'est le bon moment pour interpeller ceux-là qui sont en charge des processus de paix, qui sont en train de se dérouler. Que non, même si vous êtes en pourparler là-bas, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous en passer. C'est surtout ces violations des droits de l'homme plus grave qui se commette sur le terrain. Et après demain, qu'on ne se réveille pas avec un accord qui dit, bon, nous amnistions, ou bon, nous intégrons dans l'appareil étatique. Vous voyez, on fait de l'État un appareil criminel quand on y intègre déjà sans foi ni loi. Donc pour nous, c'est dire, c'est pour parler, doivent tenir compte de toutes ces violations des droits de l'homme qui se commettent et sortir avec une partie des résolutions qui dit, nous allons sanctionner.
Il faut justice, que la justice, justice soit faite,
effectivement.
Que les victimes aient réparation. C'est tout ça que vous demandez?
Effectivement, c'est tout ce que nous avons toujours demandé. Parce que tout simplement, ces messieurs-là qui ont violé aujourd'hui, ils se voient que non, on ne me touchera jamais. Il va violer demain, il continuera à violer. C'est ce qui est dit même dans les rapports. Il a violé aujourd'hui, il violera toujours demain parce que personne ne va l'inquiéter. Donc, on a besoin de la justice aussi pour contribuer à la restauration de la paix. Et surtout, le format de la justice transitionnelle. C'est ce qu'on veut. Que les bourreaux voient ses victimes en face et qu'ils comprennent à lui que vraiment il a offensé la communauté. Et non aller se cacher derrière d'autres juridictions éloignées où les bourreaux parfois jouissent d'une prise en charge plus meilleure que même ses victimes. Non, on veut que ces bourreaux soient jugés là où ils ont commis des crimes et c'est à travers le mécanisme de la justice transitionnelle.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme, basée à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. En tant qu'activiste, comment ce rapport d'Amnesty International renforce-t-il ou modifie-t-il votre compréhension, hein, je voulais dire, de la situation de droits de l'homme dans l'est de la RDC, Dismas Kitenge.
Merci beaucoup, Kelly. Merci, mes co-débatteurs. Ces rapports-là révèlent d'abord des choses très graves, c'est-à-dire la gravité des crimes qui se commettent sur le terrain et dans les deux provinces du Kivu. Ces crimes sont des crimes vraiment graves, sérieux, qui ne touche pas seulement les personnes qui sont tuées ou les personnes qui subissent ces actes-là, mais qui touche aussi l'humanité entière. Donc, c'est la gravité. Les rapports révèlent la gravité de la situation sur le terrain, malgré le contexte des processus de paix en cours. Deuxièmement, ces rapports-là qui se commettent, qui démontrent la gravité de ces crimes-là, qui touchent l'ensemble de la population, il y a des victimes directes, il y a des victimes indirectes. Les victimes directes sont les personnes qui souffrent directement de préjudices occasionnés par ces violations, mais il y a aussi la société entière, des communautés entières qui souffrent, puisque le nombre de victimes ne fait que s'aggraver, mais aussi le méthode de le faire change aussi pour toucher. Donc on a parlé des disparitions forcées, c'est-à-dire des personnes qui sont enlevées et dont on n'a pas de nouvelles. Donc les méthodes aussi changent, les méthodes aussi commencent à atteindre un certain niveau de cruauté, un certain niveau de technicité grave. Ces rapports-là les démontrent aussi. Troisièmement, c'est aussi l'indifférence de la communauté internationale. On voit le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire ces crimes-là qui se commettent dans ces deux régions, le nord et le sud, qui vous sont des crimes contre l'humanité, sont des crimes de guerre. Et il peut y avoir aussi des actes constitutifs de génocide qui ciblent certaines communautés. Et ça s'appelle aussi en droit international, et droit international humanitaire, des crimes internationaux. Et les caractères internationaux, c'est que ça dépasse nos frontières. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, ça veut dire que les belligérants, ça montre aussi ces rapports-là, c'est le côté professionnalisme de l'Amnesty. Amnesty a démontré que c'est une organisation indépendante de tout pouvoir, mais c'est aussi une organisation qui se caractérise par ce qu'on appelle les principes d'impartialité. C'est-à-dire, il démontre à la fois les violations du droit international commises par les rebelles et aussi les violations commises par le FRDC et les Wazalendo. C'est-à-dire, Amnesty International ne s'est pas basé seulement pour attaquer les violations commises par une partie au conflit, mais c'est toutes les parties en conflit qui commettent les violations des droits humains. Ça, c'est aussi les caractères innovants, c'est aussi les caractères encourageants, mais il y a aussi, cinquièmement, ce qui se passe, c'est que le processus de paix qui se négocie ou qui se met en place tant bien à Washington qu'à Doha, ne tient pas compte de violations des droits humains. C'est-à-dire quoi? Les victimes sont oubliées. Les victimes ne sont pas au cœur de ces négociations. Ce n'est pas, puisque si les victimes étaient au cœur de ces négociations, on allait marquer des principes de la lutte contre l'impunité, les principes d'instauration de ce qu'Amnesty appelle la redevabilité, et aussi les principes de dire qu'il faut que les victimes participent, soient consultées, qu'on voit aussi les intérêts des victimes et leurs droits. Et ça, c'est exclu. C'est exclu de ces principes-là de négociation. Même si on parle de vetting, qu'on va voir cas au cas, mais ce n'est pas clairement mentionné. C'est-à-dire, c'est le côté faible de tous ces processus de paix qui exclut le droit et les intérêts des victimes, mais qui exclut aussi les témoins. Les témoins qui sont la société civile, les témoins sont les organisations de défense des droits humains, les organisations de victimes qui doivent aussi parler et dire ce qu'ils veulent, ces organisations, les communautés qui sont touchées par ces violations, qui doivent être aussi consultées, ces mécanismes de suivi et de leur implication est aussi abandonné. Enfin, il y a aussi un problème très sérieux que ces rapports révèlent. C'est le énième rapport. On a déjà entendu des choses qui ont été dites par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, par le Bureau conjoint des Nations Unies, par Amnesty, les organisations de la société civile. Mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action concrète. Des actions concrètes qui sont menées à la fois par les belligérants, eux-mêmes qui sont responsables de ce qui se commettent. Quand on parle de belligérants, ça veut dire l'M23. Quelles sont les mesures que l'M23, l'armée rwandaise et ses supplétifs prennent pour arrêter cette hémorragie de violence organisée et globale qu'ils mettent en place dans les zones qu'ils contrôlent? Il n'y a pas ces mesures-là. Il n'y a pas non plus de mesures qui sont prises concrètement par le gouvernement congolais. Et c'est les groupes armés qui l'accompagnent, comme les Wazalendo, pour mettre fin à ça et protéger. Donc, au fond, et je vais terminer par là, la question, la problématique importante que soulève ces rapports, c'est aussi la question de la protection de la population civile. Pas seulement la protection de la population civile, mais c'est aussi la protection des communautés, la protection des acteurs de droits humains. On a parlé des attaques contre le défenseur, qui ne sont pas des partis en conflit, qui sont des gens qui font leur travail pour les besoins des communautés. Ils ne sont pas protégés. Ils sont donc à l'abri et à la merci de tout le belligérant. Voilà ça aussi. Et c'est la question, qu'est-ce qu'on doit faire?
Voilà, justement, ça sera la deuxième partie de notre émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va y répondre, comme je l'ai dit, dans la seconde partie de l'émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Capitel. Si, voilà, vous nous suivez depuis Walungu. Alain, voilà, Chelsea, Alain, depuis Walungu, DCC, surtout les deux groupes rebelles, Wazalendo et FCM 23, vraiment, nous les voyons avec nos yeux. Merci à Francisco Kimenia, qui nous suit depuis la Belgique, Mueshimiwa Bihango, qui dit ceci, depuis le début de l'agression, on parlait de l'armée rwandaise, mais pour élargir la procédure, on dit encore les Wazalendo qui sont en train de réagir face à l'agression. Est-ce que si les militaires rwandais n'étaient pas en RDC, les Wazalendo seraient cités? C'est une question qui pose à Amnesty International. Madame Bénédicte Wonganombe, on a reçu votre message. Alors, pour vous solliciter d'ailleurs demandé aux belligérants de respecter les accords, le dialogue, la réconciliation sont des voies idoines qui mettent en exergue l'Ubuntu, recours à nos traditions africaines. On va prendre, ouvrir le standard pour prendre aussi les ceux qui nous suivent sur la FM, hein, les auditeurs qui nous suivent sur la FM. Direction Valais, dans quelle province à Goma. Alors, qui vous pourrez écouter cet auditeur?
Je suis M. Zagabe Safari Moïse depuis Goma. En tant qu'habitant de Goma, j'ai lu dans ce rapport qu'Amnesty International accuse non seulement les M23, mais aussi les FRDC et leurs alliés Wazalendo d'avoir commis des atrocités contre nous civils. Comment pouvez-vous continuer à soutenir un gouvernement qui, au lieu de nous protéger, est cité comme complice d'exactions? Quelle garantie concrète pouvez-vous donner aujourd'hui à la population de l'Est pour que nous ne soyons plus abandonnés ni victimes de ceux qui sont censés nous défendre?
Alors, je pense que cette question s'adresse plus aux dirigeants, aux autorités congolaises, mais juste une brève réaction, hein, Placide, brièvement.
Donc, brièvement, c'est-à-dire c'est un cri de cœur qui de quelqu'un qui a besoin de voir l'autorité de l'État se rétablir pour que l'État assume ses fonctions régaliennes, notamment celle de protéger sa population et ses biens. Donc, aussi en matière des droits de l'homme, l'État a trois obligations. L'obligation d'abord de protéger le droit de l'homme, de respecter les droits de l'homme et de réaliser les droits de l'homme. Et que donc, pour nous, c'est dire, quand il n'y a pas d'État, c'est une anarchie et chacun fait ce qu'il veut. D'où, comme je l'ai dit au début, c'est un appel urgent au gouvernant du pays, premièrement au président de la République, à tout mettre en œuvre pour rétablir l'autorité de l'État.
Alors, on va prendre ce deuxième auditeur qui appelle depuis Bandundu, dans la province du Kwilu.
Oui, Christian Katuta, depuis la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. C'est bien bon de documenter, de faire des rapports comme les autres organisations internationales le font, mais à mon sens, la population n'a pas besoin de tout ça. La population veut que la paix revienne. Nous voulons la paix maintenant. Human Rights Watch fait des rapports. L'ONU avait fait les rapports mapping ici dernièrement, mais est-ce que la paix est revenue à l'Est? Je pense que non. Donc, nous souhaitons que la paix soit rétablie, plutôt que de rédiger ces rapports qui ne rapportent rien. Pendant que vous étiez en train de rédiger ces rapports, les femmes continuaient à être violées. Les droits internationaux humanitaires étaient toujours violés. Les hôpitaux étaient toujours attaqués. À ces jours, la situation n'a pas changé. Toutes ces exactions continuent. Donc, nous pouvons conclure aisément en disant « Vos rapports ne servent à rien ».
Alors, réaction Amnesty International, Christian Romou.
C'est aussi un cri d'alarme, hein, comme les collègues ont parlé tout à l'heure, là, parce qu'on a l'impression qu'on publie les mêmes choses et ça ne change pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ces publications nous rappellent l'importance de la justice et la rédivabilité. Pourquoi est-ce que les gens continuent à violer les femmes? Pourquoi est-ce que le M23 continue à exécuter sommairement les gens? C'est parce qu'exactement, on n'a pas agi au rapport précédent. Et c'est ce que ce rapport relève. Donc, ce rapport dit, dans les recommandations, il faut effectivement avoir un système judiciaire qui adresse les violations du passé pour qu'on ne retombe plus à ces violations récurrentes. Donc, je comprends son cri de désespoir en termes de dire que ces rapports ne servent à rien, les gens continuent à subir ces violations. Mais c'est aussi, ça indique pourquoi c'est important de continuer à documenter, de continuer à préserver l'évidence pour que peut-être un jour s'il y a une cour qui, le collègue a parlé de la justice transitionnelle, et donc s'il y a une cour qui documente et traite ces cas, que l'on puisse relever tous ces rapports pour qu'il y ait justice pour les victimes. C'est ça ma réponse.
Mais vous, Amnesty International, quels sont les mécanismes, par exemple, de justice ou de rédévabilité que vous préconisez pour les auteurs de ces crimes? Croyez-vous que la Cour pénale internationale pourrait être saisie de ce dossier?
Oui, déjà dans les recommandations, on appelle à ce que la Cour pénale internationale puisse faire des investigations sur ces allégations, notamment contre le 123, le Oazalendo, mais aussi le FRDC et toutes les parties prenantes dans ce conflit. Mais aussi, nous appelons à ce que la RDC puisse établir un système judiciaire internationalisé pour non seulement traiter les cas actuels, mais aussi aller dans le passé, parce que ça fait 30 ans que ces violations sont en train de se commettre, que ce système judiciaire puisse aussi adresser ces violations-là, notamment les violations documentées dans le rapport Mapping des Nations Unies.
On va se rendre cette fois-ci à Bukavu, dans la ville, dans la province du Sud Kivu, pour écouter ce dernier auditeur qui est en ligne.
Héritier Zahinda, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Est-ce que vraiment les autorités des deux armées, AFC M23 et FRDC Wazalendo, trouvent le temps de penser aux difficultés que traverse la population civile dans ces conflits armés? Mais aussi, ils tiennent compte des nombres de morts, surtout les enfants et les femmes. Mais également, y a-t-il des sanctions prévues au niveau national et international? Ou bien les rapports de l'Amnesty International sera comme tant d'autres rapports de violations des droits humains tels que les rapports Mamping et tant d'autres rapports qui sont dans les tiroirs?
Alors, Dismas Kitenge, comment vous répondez à cet auditeur? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont, après ces exactions qu'on dénonce, est-ce que il y a des sanctions prévues au niveau national et international? Ou bien les rapports tous ces rapports qu'on publie seront juste classés dans des tiroirs et oubliés?
Et non, ces rapports ne seront pas oubliés. Les rapports est utile. Les rapports est utile pour d'abord enregistrer, archiver ces faits-là. Hein? Donc, les reconnaître. Puis ça va servir aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Et sur le plan national, qu'est-ce qu'il va se faire? Nous avons déjà quelque chose qui a été mis en place par les autorités au niveau national, le Fonds Narev. Nous avons le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences liées au conflit, des crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, dont ce rapport va servir au ministère des droits humains, au FONAREV, aux institutions étatiques, au ministère de la justice. Ce rapport va servir aussi aux ONG nationales pour montrer ce qui s'est fait et que les autorités le sachent et qu'on n'oublie pas. C'est pour lutter contre l'oubli, puisque l'oubli c'est aussi une maladie. On oublie des faits graves. Mais ces rapports-là vont rappeler chaque fois pour l'avenir et pour... Donc, les autorités nationales peuvent se servir de ça, mais aussi la communauté internationale. Puisque, comme je vous ai dit, ce qui se passe au Congo intéresse et doit intéresser la communauté internationale. La communauté internationale va agir et nous allons l'amener à agir. Quand je dis nous, c'est la société civile qui doit faire aussi un travail de plaidoyer au niveau national et international. Les communautés touchées par les conflits, puisque ces victimes-là font partie des...
On a un souci avec votre ligne téléphonique, Dismas Kitenge. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Est-ce qu'il est en ligne ou il est parti?
Je ne suis pas parti, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez
bien.
Oui,
maintenant ça va. Vous avez la parole, Dismas.
Oui, mais je dis que ces rapports, c'est pour lutter contre l'oubli. Hein? C'est pour dire qu'il ne faut plus que ça se répète. les autorités nationales, hein, lorsque nous parlons des FARDC de Ouazalendo, les autorités connaissent ce que peuvent diligenter des enquêtes et peuvent sanctionner. Ils ont les moyens. On sait que du côté des rebelles, ils peuvent le faire aussi. Mais s'ils le font pas, nous sommes là pour les rappeler. Et nous devons leur dire au niveau international que ce qui se passe au Congo, c'est exactement ce qui s'est passé ailleurs. Et c'est passé au Rwanda. C'était les crimes, c'était les conflits armés. Ce qui s'est passé en Bosnie et Herzégovine, on a mis en place un tribunal pénal international. Pourquoi pas pour le Congo? Ce plaidoyer-là, nous devons continuer à le faire. Nous ne pouvons jamais nous fatiguer. Ça nous interpelle, nous tous, à plusieurs niveaux. Et je suis sûr que, comme nous allons lutter contre l'oubli, c'est pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. C'est pour que ça existe quelque part. Et pour appeler les gens, interpeller tout le monde, je dis à tous les niveaux de faire quelque chose. Pour qu'on arrive d'abord à savoir ce qui s'est passé. Ces rapports-là qu'on dit, c'est contre l'oubli, c'est aussi l'histoire. C'est notre douloureuse histoire que nous devons écrire. Et ça, c'est déjà une contribution à la connaissance des faits du passé et des faits du présent. Et que nous devons bien documenter, ça on reste, et enseigner à nos enfants.
Oui,
et
les documenter.
Et les rappeler chaque fois.
Documenter, oui, c'est bien, alors, mais.
Documenter, mais aussi agir.
Qu'est-ce qu'il faut faire ça pour que tous ces rapports aient un impact sur les terrains, que ce rapport puisse changer la donne d'Ismaël Kitenge?
Concrètement, je vous dis qu'il faut qu'on dise que tous ceux qui ont commis ces crimes-là, qui sont connus, qui sont épinglés de ces rapports, soient écartés des fonctions publiques. C'est ce qu'on appelle le vetting. Qu'ils ne soient plus là en attendant les procès. Ça, c'est un. Deux, qu'on les poursuive. Trois aussi, qu'on dise, par exemple, même dans notre loi électorale, que les personnes sur lesquelles pèsent des grands soupçons de violation des droits humains, même s'ils bénéficient encore sur le plan juridique de la présomption d'innocence, mais comme il y a la clameur publique, leur reconnaissance par les faits qu'ils ont posés, donc doivent être écartés d'assumer des fonctions publiques. Et ensuite aussi commencer à les poursuivre, puisqu'au niveau de la justice, nous avons toutes les lois qui nous permettent au Congo de poursuivre ces personnes-là, qui est maintenant les victimes qui s'expriment, qu'on encourage les victimes, non pas seulement à réclamer de réparation, mais aussi des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces actes-là. Et ça, le FONAREV est mieux placé, la société civile peut le faire, et au niveau international, que nous puissions commencer à mettre en exécution toutes les formes de poursuites qui peuvent exister. En attendant, par exemple, le tribunal pénal international, on peut jouer sur le mécanisme de la compétence universelle, c'est-à-dire commencer à poursuivre ces personnes lorsqu'ils sont à l'étranger de passage et que ces États-là appliquent le droit international. On peut commencer à les poursuivre comme ça. Et nous allons aussi, avec la société civile, avec tout le monde, avec les organisations des aides, commencer aussi à demander à l'ONU de faire quelque chose et de dire dans toutes les places publiques des Nations Unies ou places publiques internationales et mettre aussi, exiger que la société civile et les victimes participent aussi au processus de paix, qu'ils soient entendus. Puis c'est un processus de paix globale qui ne concerne pas que les dirigeants. C'est pour ramener la paix dans la société.
Merci.
Et il faudrait que ces questions de droits humains soient entendues. Le voix des victimes, le voix des témoins et la question de la lutte contre l'impunité soient inscrites clairement dans ces accords.
Merci.
Que tous ceux qui ont commis doivent répondre.
On a un problème de ligne téléphonique. J'espère que ça va s'améliorer pour vous donner la parole. Voilà, pour la conclusion, je voulais dire. Vous, comme je l'ai dit, hein, vous êtes très nombreux à réagir. Les réactions tombent. À chaque seconde, on va lire quelques-unes de vos réactions. Tony Moussessa Kiabori, depuis 30 ans que cette guerre a commencé, le Rwanda n'a jamais été condamné et jamais il n'a pas été cité dans le rapport. C'est Tony depuis Bounia qui nous écrit, voilà. Kabori, toujours les rapports, les mêmes choses et rien de concret. La population continue à souffrir. Le Rwanda qui joue un grand rôle dans la situation n'est jamais poursuivi. Serge Lézabé pense que le problème, c'est plutôt la M23 et son allié rwandais. Le reste n'est que digression, voilà. Julien Mombandoa Kiaboulo, voilà, trop de réactions, hein, qui tombent à la seconde, à chaque seconde, donc difficile de toutes les lire. Placide Nzilamba, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement congolais, de la communauté internationale pour la protection des populations civiles?
La première des attentes, c'est d'abord finaliser avec tous ces processus de paix rapidement et commencer leur mise en œuvre. C'est ce qui est une attente directe, et que donc ces populations soient d'abord libérées des jougs de rébellion afin qu'on commence à parler autre chose après. De deux, c'est de dire qu'il y a aussi une autre manière de faire, c'est de dire aux commandants qui ont la charge de conduire des troupes sur le terrain à bien veiller sur leurs hommes. Parce que dans la détermination du crime, il y a aussi le rôle du commandant. Et que donc, un commandant peut être arrêté parce que tout simplement, il n'a pas veillé sur le comportement de ces hommes. Vous avez vu, quand on arrête les gens, on arrête souvent les commandants. Et vous avez vu Bosco Ntaganda être à La Haye. Ce n'est pas dit que c'est lui qui a pris le Kalachnikov et tué. Mais peut-être qu'il était à la tête d'une expédition qui a commis des crimes. Vous avez vu le procès Jean-Pierre Bemba, la CPI. Jean-Pierre Bemba n'avait jamais été à Centrafrique, peut-être pour aller tirer sur les gens, mais il a été arrêté à cause de ça. Donc c'est dire à tous ceux-là qui ont la charge de conduire des troupes sur le terrain ou des combattants à bien les éduquer au droit international humanitaire, pour leur dire il y a des gens qui ne participent pas et qui ne participent plus au combat, ce sont des gens à qui il ne faut pas se rabattre. De trois, c'est de dire, c'est de continuer à plaider pour que aujourd'hui même la communauté internationale aide la RDC à implémenter les mécanismes de la justice transitionnelle. J'y reviens pourquoi. Parce que tout simplement, ce sont des mécanismes qui paraissent fiables dans le contexte du Congo. Il est vrai que la justice congolaise, à travers les juridictions militaires, réprime aussi les crimes de guerre. Mais bon, au contexte actuel, avec beaucoup de réformes qui doivent être implémentées avec la justice au pays, nous pensons qu'il faille vraiment passer par le mécanisme de la justice transitionnelle. Ça, c'est une demande de la population congolaise depuis bien longtemps. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne commence pas. Ou c'est la léthargie au niveau de nos gouvernants, ou bien c'est la manière de présenter le problème qui n'est pas bonne. Je crois que le ministre national de la justice et celui des droits humains doivent travailler d'arrache-pied pour nous obtenir ces mécanismes de justice transitionnelle au pays.
Merci, Placide Nzilamba. On va considérer cela comme votre conclusion, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Merci à Fabrice Moussema qui nous suit depuis Lusaka, dans la capitale zambienne. Christian Romo, pensez-vous que ce rapport pourra avoir un impact concret sur les efforts de paix en cours? Si oui, de quelle manière?
Nous espérons bien que ça va jouer à quelque chose de positif. Déjà, nous voyons des réactions, notamment de Washington, sur les différents rapports, non seulement d'Amnesty, mais aussi de Human Rights Watch et du Bureau des Nations Unies cette semaine, les jours précédents, sur les violations graves dans les deux provinces. Donc, nous espérons que ça va interpeller ceux qui aident la RDC et les pays voisins, dont le Rwanda, à se mettre d'accord sur un processus de paix inclusif, hein, comme les amis ont mentionné, et qui place la justice et la redevabilité. Et peut-être, comme mot de la fin, si vous permettez.
Allez-y.
Le désespoir que je sens dans plusieurs réactions est vraiment frappant. Mais qu'on ne perde pas espoir, les pays comme le Tchad, on a vu Itai Nabré devant
une cour soutenue par l'Union africaine au Sénégal. Et donc, la justice est possible. Et donc, tous ces rapports qu'on fait, ce n'est pas pour rien. Le collègue Dismas l'a repris. C'est très important qu'on continue à documenter, qu'on continue à garder l'évidence, qu'on continue à garder notre mémoire sur ce qui s'est passé, pour qu'un jour, il y aura un jour où tous ces gens vont payer de leurs crimes. Et les victimes auront leur jour devant un tribunal que nous espérons qu'on ne va pas attendre encore 10 ans, 20 ans. Mais il faut ce système judiciaire maintenant pour adresser toutes ces violations.
Merci Christian Roumon, chercheur chez Amnesty International. Mouindo Magulu, vous nous suivez depuis Kiwanja, Rutshuru. Idrissa Arma, vous êtes à Lusaka en Zambie. Pamphile Luyando à Kolwezi, merci beaucoup. Fortuné Kazadi, vous êtes à Kasaji. Diam Mouroula, ce qui fait mal, c'est que les FARDC et Ouazalendo censés nous protéger participent aussi à notre malheur et surtout dans des zones qui ne sont pas encore sous occupation. Jean-Baptiste Boutcharimoué, je vous suis depuis Goma au Nord Kivu. Nous dénonçons chaque jour les cas de violences ou de violations de droits de l'homme, mais pas des solutions. Dismas Kitenge, votre conclusion. Dismas Kitenge, est-ce que vous êtes en ligne? On essaie de le rappeler. En attendant, on va prendre quelques autres réactions. Félix Gabi Kiré, vous êtes à Rutshuru. Merci de suivre ce magazine. Merci. On vous remercie d'être à l'écoute. Vous êtes là, Dismas Kitenge, il est là. On n'arrive pas à le joindre, malheureusement. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Alain Goy, Dieudonné Nyangasa, Nelson Nyombe, Enoch Katumbi qui m'ont aidé à préparer cette émission. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la fréquence de la paix.